Radio Campus.
Let's go.
88.3.
Ce bruit, depuis 10 ans, était devenu familier et n'intéressait même plus le public. Et pourtant, pour ce bruit, identique aux autres bruits, le monde a retenu.
Thank you.
Colored balloons burst. Colored balloons burst. It's like a curse. Like a curse. It's like a curse. Like a curse. Wet confetti disintegrate. It's like the fate. Like the fate. It's like the fate.
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenché au palais de la
Sécurité. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés, bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Bienvenue sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Enfin, on est avec vous. Désolé hein, pour ce petit retard. Il y a quelques soucis techniques, mais évidemment, grâce à Victor, on en est arrivé à bout. Salut Victor.
Salut Hassan.
Ouais, c'est pas Rodrigue qui serait venu m'aider. Salut Rodrigue, tout de même.
Bonjour Hassan.
Attends, tu ne parles pas trop près du micro parce que c'était un peu... voilà. Oui, quelques problèmes techniques, mais tout va très bien. On a quand même 50 minutes d'émission pour parler notamment de la rentrée scolaire, la rentrée universitaire plutôt. Il y a une dizaine de jours, le président de l'université a reçu les journalistes pour parler de cette nouvelle rentrée 2023 pour les 2022-2023 pour les étudiants. On l'écoutera sur les filières, les nouvelles filières, notamment les effectifs également qui sont stables et on parlera évidemment de la grande nouveauté, la faculté de médecine qui ouvre à Orléans cette année. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons d'une signature hier samedi. Non, voilà, ça y est, je suis perturbé. Samedi, dans le cadre du très beau festival Pop-Up, c'était la signature d'un partenariat visant à soutenir la filière régionale des musiques actuelles. Nous entendons le président de la région, François Bonneau, nous entendons également les partenaires, notamment la Fracama et Seine au centre. Mais pour démarrer cette émission, vous le savez, nous avons notre ami Mourad Guichard qui arrive juste après notre petit jingle. qui ne part pas non plus. On va écouter Mourad, que j'ai enregistré cet après-midi. On parle d'université aussi avec Mourad, avec un article sorti dans l'Humanité sur les frais de bouche, des problèmes de frais de bouche à l'université d'Orléans. Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Hassan.
Et pour parler avec toi, hein, comme tous les mardis, et décrypter un article ou parler de faits d'actualité, et cet article qui est sorti dans l'Humanité aujourd'hui, qui parle de l'université de frais de bouche, tout part d'une note interne au personnel, qui indique que les dépenses auprès des traiteurs, soit ce qu'on appelle aussi les frais de bouche, sont suspendues. C'est un mail envoyé début septembre, hein, par terre d'enseignants et d'administratifs, dit l'article. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe?
Il s'est passé qu'un certain nombre d'enseignants et d'administratifs ont reçu ce mail un peu anxiogène, disant que les quelques 140 000, je crois que c'est 140 000 euros, hein,
c'est ça.
Si mes souvenirs sont bons, voilà, ont été dépassés. C'est un peu comme la fameuse enveloppe écologique, hein, qu'on dépasse au mois de juin maintenant au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on dépense les ressources de la planète avant le 31 décembre, et ben là, c'est exactement la même chose. Et donc, il y a eu une inquiétude forte, puisque normalement, les enseignants pensaient que tout ce qui était frais liés à leur mission, les frais de bouche liés à leur mission, ne seraient plus pris en charge. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, un professeur qui va se rendre à Châteauroux ou à Blois et qui va devoir déjeuner, se verrait privé du remboursement de ses frais de bouche. Et donc la fac a tenu à les rassurer en disant non, c'est pas lié, c'est pas le même budget, sauf que en se penchant concrètement sur ces dépenses, on a du mal à comprendre comment une somme pareille peut être dépensée en frais de bouche dans une période qui est quand même un tout petit peu compliquée au niveau budgétaire et au niveau financier pour tous les établissements. D'ailleurs, il n'y a pas d'université d'Orléans, mais pas bon, tout le monde fait des efforts, et là on a l'impression d'un côté un peu dispendieux. Et je prends pour exemple le pot qui a eu lieu, la petite sauterie qui a eu lieu début juillet, pour honorer, je crois, une remise de médaille d'un ancien... ancien classique de la fac d'Orléans, mais tu je crois que tu en sais plus.
J'y étais pour les palmes académiques, et puis l'ancien recteur, voilà, de l'université qui partait à la retraite, dont j'oublie le nom tout de suite, mais oui, il y a eu cette petite fête, oui.
Voilà, alors avec près d'une centaine de personnes, d'après mes infos, oui. Et puis trois camions frigorifiques de traiteurs. Alors c'était peut-être pas le moment de faire ça, et je pense que c'est sans doute ça qui a mis dans le rouge les finances sur les frais de bouche de l'université. Alors l'université a fait presque amende honorable quand je les ai contactés, en disant que ils allaient trouver une solution, que c'était à cause du nouveau système comptable qui s'était aperçu cette fois-ci, contrairement à 2018 et 2019, on prend donc les deux années avant évidemment la crise Covid, où déjà cette enveloppe avait été explosée, mais ils s'en étaient seulement rendu compte, selon leur dire, au 31 décembre, et que là, grâce au nouveau système comptable, ils s'en sont rendus compte fin août. Sauf que j'apprends, mais vraiment quasiment en rédigeant mon papier, j'apprends qu'il y a un nouveau pot autour d'un vernissage d'exposition qui va avoir lieu.
Mais ce soir même, ce soir.
Forcément, oui, voilà, ce soir, et qui va forcément générer ou engendrer des coûts supplémentaires. Et donc, on a du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas un réel frein à ces dépenses, et on aimerait avoir de la part de l'université un peu plus de transparence, à savoir comment sont répartis ces 140 000 euros et comment on justifie des pots et des réceptions qui atteignent ce niveau-là.
Tu n'as pas eu de réponse de la présidence là-dessus ?
Non, du tout. On n'a pas le. Alors c'est ventilé, mais c'est pas voté. C'est-à-dire qu'en CA, on vote des frais de fonctionnement, et dans ces frais de fonctionnement, on retrouve cette somme, mais on ne sait pas, à l'heure à laquelle je vous parle, on ne sait pas où cet argent est passé, très concrètement.
Oui, tu as pu aussi contacter des enseignants et des enseignantes qui craignent pour leurs frais de mission. Que répondent...
C'est ce que je disais au départ.
Oui.
Ils craignaient qu'ils ne soient plus remboursés. Alors, il y a une enseignante qui a fait un post sur Facebook, Corinne Develeux Texera, pour pas la citer, qui était révoltée par cet état de fait, et qui a engendré derrière, notamment dans les commentaires, et puis par rapport aux gens que j'ai eus, qui ont vu ce fameux post, cette crainte que leurs frais ne soient pas remboursés. Mais pour l'instant, l'université assure que ces frais seront remboursés puisqu'ils ne sont pas associés, selon eux, directement à cette enveloppe.
Demain, demain jeudi se passe sur l'université ce qu'on appelle le Happy Campus Day pour accueillir les nouveaux étudiants et pas que. Nous essaierons de poser la question au président s'il passe devant notre micro, devant notre stand.
كان يا ليلى بش كبرسك راسي ست الناس كباري اني ني باي مانش على ويمتي جروندينك يهونش وزرت اثيوبيا من تتبك علش فتصوم إثيوبيا ويت أنا ما دي ماما وزريت إثيوبيا كونجيت إني نيمبار ترامج ودت فيت وشيبا دباباي النكا ومالن أنشين بكفوي مياي كان يلي لبش كقربس كراسش ست الناس كباري ايني ني باي مانش
Une belle soirée, une très belle soirée vous attend samedi prochain si vous êtes dans les environs d'Orléans à la chapelle Saint-Mémin ou Mesmin.
Mémin.
On dit Mémin.
Mémin.
Très bien. Bon, bah moi je viens de loin, donc je sais pas. Saint-Mémin avec une belle soirée éthiopienne avec le très 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 grand Guirma Beyele à l'instant avec Akale Oubé, un groupe français avec le grand David Georgelet à la batterie qui habite Orléans et qui nous a permis hier avec mon ami Charles Ngals de la classe internationale de faire l'interview de ce grand bonhomme qu'on écoute depuis tellement longtemps et qu'on aime. Donc la soirée commence à 18h dans la salle des fêtes de la chapelle Saint-Mémin par la diffusion d'un film réalisé lors de l'enregistrement du superbe album dont est extrait Enken Yekilebesh à l'instant. Ensuite, il y aura un repas éthiopien. Allez-y, hein, vraiment. Si vous pouvez, venez. Et puis, il y aura un concert ensuite en fin de soirée. Tout ça se passe à la chapelle Saint-Mamin. Ne loupez pas ça, s'il vous plaît. Ne loupez pas ça. Je vous aurais prévenu.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Tu avais deux, trois choses à dire sur l'intervention de Mourad, Victor?
Oui. Déjà, je ne connais pas suffisamment la logique comptable des universités, mais j'imagine, d'après ce qu'on me dit, que si jamais on est dans le rouge en septembre, c'est que ça doit pas commencer en septembre, les exercices budgétaires. Ouais. Ça doit commencer en janvier. Et au final, du coup, sur la moitié de l'année et sur les vacances, ils ont réussi à dépasser leur enveloppe budgétaire. C'est quand même assez dingue, je trouve. De la part de personnes qui sont censées être quand même des gestionnaires accomplis pour ce type de truc. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que c'est quand même assez indécent quand même d'entendre parler de frais de bouche qui dépassent les 140 000 euros dans la mesure où il y a quand même un certain nombre d'étudiants qui sont dans une grande précarité alimentaire, qui doivent dépendre de l'aide alimentaire bénévole pour pouvoir survivre et qu'au final, bah, l'université se permet de faire des dépenses césariennes, enfin pharaoniques, au-delà de son budget, quoi.
Tu veux que je te dise ? Tu y es dans le vrai. Mais après, comme je disais, on essaiera de voir le président de l'université qui ne manquera pas de passer à l'émission spéciale. Hein, vraiment, restez branchés sur Radio Campus jeudi prochain à partir de midi pour la journée Happy Campus Day. Tu vas y aller, Rodrigue ?
Ah bah oui, je serai présent au Happy Campus Day et je représenterai même une association.
Laquelle ?
L'association ELSA, c'est l'association européenne des étudiants en droit. Du coup, on aura un stand à côté de la faculté de droit.
Et tu as une conférence bientôt prévue avec ELSA. On en parlera, si tu veux, dans le cours de cette émission. Mais pour l'instant, on va parler donc de cette rentrée. Ça va pour toi, en fait, la rentrée ? Tout se passe bien en droit, en DEG ?
Bah, l'administration commence à s'organiser petit à petit. J'ai compris qu'ils étaient en sous-effectif, mais ça se fait progressivement.
Oui, et il y a des nouveautés d'ailleurs en DEG. On en parle dans quelques minutes avec le président de l'université, Éric Blanc, qui recevait la presse il y a quelques temps quand même, le 6 septembre. On n'en parle qu'aujourd'hui, pour parler donc de cette université, l'actualité, donc les effectifs. Il a parlé également du futur. On a beaucoup parlé, il nous a beaucoup parlé de cette faculté de médecine qui voit le jour à cette rentrée-ci. Mais oui, les effectifs, c'est assez troublant, mais il y a plutôt moins d'inscriptions cette année, nous dit Éric Blanc. Mais ce n'est pas une surprise pour lui, écoutez-le.
Plutôt stable pour les L1, enfin en licence, hein, les néo-bacheliers. Une petite baisse sur les deuxième et troisième années de licence, mais c'était attendu. Hein. C'est la suite de la bienveillance Covid qui dit ben, on arrive sur la fin. Hein. Et puis une hausse en master. Ça, c'est très très bien. C'est plus d'étudiants sur le bac plus 4 et bac plus 5. Pour l'Université d'Orléans, c'est une très très bonne chose. Et puis pour les laboratoires, c'est aussi une excellente chose. Donc ça, c'est un vrai plaisir de voir cette hausse en master. Et puis donc cette relative stabilité en licence. C'est paradoxal, mais on n'est pas mécontent d'avoir une petite baisse en licence 2 et licence 3, puisqu'on avait eu quand même une hausse de plus de 25% en 4 ans, une hausse des effectifs étudiants. Malheureusement, on n'avait pas eu la hausse des effectifs enseignants. Et donc, voilà, cette petite baisse en licence 2 et licence 3, je pense, donnera un peu d'air aux collègues qui sont à 150% de leur temps depuis 3-4 ans déjà.
Et même en STAPS, alors, c'est toute cette petite... ces polémiques des années précédentes sur la rentrée en STAPS avec des étudiants en surnombre, elle est passée.
Alors elle est passée, pas totalement. Je vous rappelle que l'année dernière, on était quand même parti sur l'idée de baisser le nombre de places en STAPS, hein, puisqu'on n'était plus en capacité de faire face. On a été entendu puisque finalement on a pu créer deux postes supplémentaires en STAPS, alors qui pour l'instant sont des postes dits d'attachés temporaires d'enseignement de recherche, puisqu'on avait une problématique de délai de recrutement, hein, mais postes qui vont être de titulaires pour la rentrée suivante. Donc voilà, ça permet de faire un peu face à cette hausse. On a aussi, grâce au montage de la PASS et de la faculté de médecine, pu alimenter avec un poste d'enseignant supplémentaire au niveau des STAPS, puisqu'il y a une passe STAPS. Donc, je dirais pas que c'est derrière nous, ça reste tendu, mais on progresse dans la bonne direction.
Pour les nouveautés, maintenant, il y a des choses nouvelles qui sont montées, notamment en droit, économie, gestion à Bourges. Ce sont des formations et prépa talent. Expliquez-nous.
Alors Prépa Talent, c'est le programme initié par le ministère de la fonction publique, hein, pour faire des classes préparatoires à des concours de la fonction publique. On en avait déjà deux, une pour l'École nationale de magistrature, une pour l'INSPE, ex-ENA. Et donc là, nous en ouvrons deux nouvelles, donc classes préparatoires pour des concours. Une à Châteauroux pour le concours pour les métiers de secrétariat général de mairie. Hein, donc, ce qui est quand même, il y a un gros besoin dans les mairies, notamment les mairies rurales. Donc là, il y avait un besoin. On se positionne à Châteauroux, donc au plus proche, j'ai envie de dire, du milieu rural. Et on espère évidemment que ça va répondre à l'attente des maires. La deuxième classe préparatoire, qui elle ouvrira en janvier, c'est une classe préparatoire pour les métiers d'ingénieurs territoriaux, qui s'adresse à des gens qui sont déjà diplômés, diplômés de niveau ingénieur, mais ingénieur, on va dire, en technique, et qui souhaitent acquérir le bagage en droit, le bagage sur le fonctionnement de l'appareil d'État, pour pouvoir se présenter dans de bonnes conditions au concours d'ingénieur territorial.
Et là, Rodrigue, tend l'oreille, ça t'intéresse alors ? Cette formation, tu en avais déjà entendu parler ou pas ?
J'avais entendu parler des classes préparatoires qui existaient pour l'ENA, mais quand on nous les avait présentées à la rentrée dernière, c'était réservé aux boursiers, on nous avait indiqué.
D'accord. Ouais.
Après, je voulais aussi revenir concernant les effectifs de L1, L2, L3 qui ont été indiqués. On dit comme quoi il y a un niveau de L1 qui est assez stable. Ce que je sais, en tout cas, c'est que nous, l'an dernier, au niveau des L1, on n'avait pas eu de semaine de révision. Ça permet notamment de faire redoubler pas mal de personnes. Et je sais aussi que les lycéens, parce que je suis au conservatoire et j'ai pu parler avec des lycéennes, qui savent que l'université d'Orléans est peu attractive et qui souvent, sur leur vœu Parcoursup, se retranchent sur des destinations.
Tu en connais ?
Paris ou Tours. Bon. Oui, j'en connais. Ouais. La majorité des personnes que je connais du conservatoire sont parties étudier sur Paris. D'autres sont même parties plus dans le sud de la France. Donc cet effectif stable en L1, pour moi, il révèle pas du tout une attractivité de la fac. Et cette baisse d'étudiants en L2 et en L3, faut savoir que cette année, nous, dans l'amphithéâtre, on se demandait si on était L2 redoublant ou si on était L2 qui venait de valider sa L1.
Quelle différence ?
La différence, c'est qu'il y a beaucoup de L2 qui, en tout cas, dans la formation en droit, ont retapé leur année. Donc cette baisse de L2, enfin, par exemple, j'ai aussi beaucoup d'amis qui, à la fin de leur L1, ont été acceptés dans d'autres universités.
Ils sont partis.
J'en connais qui sont partis à Lille pour leur L2, j'en connais qui sont partis à Paris pour leur L2. Donc ces chiffres, je pense, ils sont à étudier plus en profondeur.
En tout cas, les chiffres donnés par le président de l'université, ce sont les chiffres définitifs. D'ailleurs, ne seront connus qu'en janvier, hein, faut le savoir. Et la seule référence est celle de janvier 2022. Il y avait 20 083 étudiants qui étaient inscrits pour 2021-2022. Et là, il nous a parlé entre 19 et 20 000 étudiants, donc une 1000 étudiants en moins, quoi. Et c'est ce qui est assez important. D'ailleurs, le syndicat, la section du SNASUB FSU, le syndicat de l'Université d'Orléans, immédiatement a envoyé à la presse des chiffres qui sont différents de ceux de la présidence. Hein, et le SNASUB FSU nous dit qui prend également pour référence le nombre d'étudiants inscrits au 31 août 2022, donc à la fin de l'année scolaire dernière. Il y avait 14 597 inscrits contre 15 597 un an auparavant. Et le SNASUB FSU qui pose cette question. Comment expliquer cette chute inattendue qui touche presque toutes les composantes et bien au-delà des néo-bacheliers? Il y a aussi les personnels. Tu me disais que même en DEG, on vous dit qu'il n'y a pas beaucoup de personnel. Donc, c'est ça?
Le personnel, en tout cas, il manque et ça se sent, que ce soit les enseignants.
Sur quoi ça se sent? Sur le...
Notamment sur les TD, où ça se sent.
Vous avez un manque d'enseignants.
Je sais que ma première L1, je l'avais fait sur l'université de Chambéry. On était 15 dans les groupes de TD. 15, c'est vraiment pas beaucoup. Ici, à Orléans, on est entre 35 et 40 personnes.
40 personnes pour un TD?
Ouais.
Ah, la vache.
L'an dernier, on était dans une salle où, par exemple, il n'y avait plus assez de chaises pour tout le monde.
Oui. Waouh. Bon.
Et au niveau de l'administration, souvent, c'est des difficultés à faire les emplois du temps, surtout en début d'année, parce que c'est assez compliqué et lourd à faire. Et il y a des nouvelles problématiques techniques qui sont arrivées. En tout cas, moi, je parle pour la faculté de droit.
Chers amis, vas-y. Victor.
En fait, j'imagine qu'ils comptent sur un certain nombre d'abandons pour arriver à faire fonctionner l'université correctement.
Mais comme t'es mauvaise langue, toi.
Non, mais ça me rappelle un petit peu à l'université de Lille. Ce qu'il faut savoir sur le campus de l'université de Lille 1, c'est que il y a 3 restaurants universitaires pour toute l'université, sachant qu'il y a en plus des écoles de commerce, des trucs, des écoles d'ingénieurs, etc. Et en fait, matériellement, ils peuvent pas assurer les repas pour tout le monde. Et on avait fait remonter ce problème à l'université et ils nous avaient dit que la source du problème.
Vas-y.
Et il nous avait dit qu'en fait, la source du problème, c'était que non, mais de toute façon, c'est pas grave parce qu'on va avoir au moins 30% de pertes d'ici décembre.
Super. Ah, super.
Et du coup, là, les capacités d'accueil au niveau du truc, c'était un peu la guerre du ventre, quoi.
Le SNASUB
ça fait un peu penser à ça, ouais. Du coup.
Dans son communiqué à la presse, le SNASUB FSU nous parle également des BIATS, les BIATOS, le personnel administratif de l'Université d'Orléans. Fin août dernier, près de 80 postes BIATOS, personnel non enseignant, donc, étaient affichés comme vacants sur le site de l'établissement. Voilà. Donc, ça pose aussi un problème. Rodrigue, tu nous dis qu'il y a des enseignants en moins aussi. Voilà.
En tout cas, je pense que pour un bon accompagnement, il y en a pas assez. Ouais.
Et il y a autre chose qui aurait dû t'accrocher l'oreille, mon cher Victor, et je te vois pas, j'étais pas vu réagir. C'est que le président de l'université nous a dit que sur les prépa talents, les nouvelles formations en droit, économie et gestion, qui sont créées à Châteauroux, ça fera plaisir aux maires.
Bah après, c'est...
On ne crée plus de filières pour les étudiants, pour qu'ils réussissent, mais pour faire plaisir aux maires.
Après, c'est juste que là, c'était sur le concours de secrétaire général de mairie.
Donc ça s'entend.
Non, c'est pas que ça s'entend. C'est juste que techniquement, j'imagine que les retours qu'il doit avoir, il a plus facilement des retours de la part de maires que de la part de secrétaire général de mairie.
Oui, je fais la mauvaise langue. Effectivement, la grande nouveauté cette année, c'est la création de la fac de médecine à Orléans et le changement de l'hôpital d'Orléans en CHU. Évidemment, on en a parlé avec Éric Blanc, écoutez.
Alors ça s'est très bien passé, les étudiants étaient au rendez-vous, satisfaits d'être là. On a pu constater que sur les 105 étudiants en passe, 65 étaient du Loiret et qu'on en avait seulement 12 qui viennent d'autres régions. Donc ça montre que ça répond vraiment à un besoin local fort. Je pense que ça a été dit et redit, historique, une rentrée historique, puisque c'est la première rentrée de passe. Maintenant, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que je tiens à souligner que les LAS existaient déjà depuis 2 ans. Donc des étudiants qui faisaient une première année pour ensuite faire leurs études de médecine, il y en avait déjà depuis 2 ans à Orléans. Le gros enjeu maintenant, c'est la rentrée de la deuxième année. Donc l'année prochaine, on est au rendez-vous et on est déjà bien avancé. Donc je peut dire en confiance que cette deuxième année se fera à Orléans. On travaille également sur la troisième année et les recrutements des collègues qui vont assurer ces enseignements. Donc là, on travaille en très très belle synergie avec Patrice Diot et Arnaud Giacometti à Tours. On travaille également en très belle synergie avec les collègues de l'hôpital. Alors évidemment, Olivier Boyer, mais pas que. Je pense aux collègues très investis comme Monsieur Pham, par exemple, ou d'autres auxquels je pense et qui s'investissent énormément. Et puis une pensée particulière, très émue et très triste, c'était Monsieur Labrère, le directeur adjoint du CHRO, qui était vraiment au cœur du dispositif, très actif, qui a, pour ainsi dire, écrit la convention qui va transformer le CHRO en CHU, convention qu'on finalise les virgules, mais c'est lui qui avait fait 90% du travail. Et malheureusement, il nous a quittés de manière précipitée. Et ça, je tiens à lui rendre hommage.
Et oui, hommage également de Radio Campus. On le connaissait, nous le connaissions un petit peu. Monsieur Labrère, ici, il est décédé assez brutalement. Je crois que la veille ou 2 jours avant cette conférence de presse. La vie culturelle, hein, vous nous connaissez, on y tient ici sur Radio Campus Orléans. Quelle vie culturelle, quelle vie associative étudiante, et on va en parler et en reparler jeudi prochain avec l'émission spéciale sur le Happy Campus Day sur Radio Campus Orléans. Je vais poser la question à Éric Blond. On avait effectivement un peur en sortie de Covid que la vie culturelle ne reprenne pas. Il semble que ce ne soit pas le cas et qu'il y ait beaucoup d'activités qui ont repris. Éric Blond.
Alors on avait une grosse inquiétude sur le redémarrage de la vie étudiante et de la vie culturelle après le Covid. Chacun sait que ça a laissé une marque, hein, ça a été un coup d'arrêt. Eh bien, ça redémarre très fort. Les étudiants ont été au rendez-vous. Alors il est vrai qu'on a un peu aidé les choses en mettant un budget plus important sur la vie associative, hein, puisqu'on est monté jusqu'à 150 000 euros cette année de subventions au total, hein, sur l'ensemble des associations et des animations organisées par les étudiants. Donc ça a permis ce redémarrage. Je tiens à souligner d'ailleurs le travail de la direction de la vie étudiante et du pôle vie étudiante, hein, qui a bien accompagné, très très bien soutenu nos étudiants dans leurs initiatives. Donc je sais même qu'on arrive maintenant à des problématiques de calendrier avec des fois des événements qui se télescopent, hein, donc comme quoi on a une vie très riche. Sur la vie culturelle, le bouillon fait sa rentrée, le bouillon réouvre avec une programmation culturelle La programmation est dense, hein. Je pense qu'il va être compliqué de suivre l'ensemble de la programmation, mais c'est très bien, c'est une très très bonne chose. Comme ça répondra à tous les goûts. Donc finalement, au bilan, je dirais on est rassuré par le dynamisme de cette vie culturelle et associative, et on va continuer à la soutenir parce que c'est aussi une dimension qui participe énormément à la formation des jeunes adultes. On dit étudiants, mais c'est surtout la formation des jeunes adultes. Et on sait que cette dimension associative est primordiale. C'est souvent à l'université qu'on commence à s'investir dans l'associatif. Et on en garde l'habitude pour toute sa vie. Et donc, quelque part, c'est la vie des futures associations dans toutes nos villes, nos villages. Donc, c'est vraiment important que les étudiants prennent cette très bonne habitude dès l'université.
Victor ?
Oui. Non, je voulais juste revenir au final, le budget pour les associations étudiantes, il est de 150 000 euros. C'est bizarre, ça fait penser aux 140 000 euros de frais de bouche.
Oh là là,
mais alors, cette fois-ci, bizarrement, les budgets n'ont pas été dépassés pour pouvoir donner de l'argent aux étudiants.
Mais tais-toi. Rodrigue, on va parler de ce que tu organises bientôt. Hein. Ça fait partie de la vie culturelle et associative de l'université. Est-ce là ? Et là ?
C'est demain qu'on organisera un atelier interactif avec Madame Tessèdre, qui est professeure d'institution européenne à l'Université d'Orléans. Ce sera à l'amphithéâtre Maurice Genevoix, en LLSH,
oui.
Et non pas en amphithéâtre de droit, parce qu'il était assez compliqué de communiquer avec justement l'administration.
C'est vrai. Oui, parce qu'il y a manque de personnel, encore une fois,
oui.
C'est ça ?
D'accord. Oui, justement. Et en tout cas, moi, j'ai plus de facilité à contacter l'administration de LLSH que l'administration en droit. J'avais des réponses, je voyais les gens directement, alors qu'en droit, il fallait se battre un peu. Mais il y a toujours des personnes dans l'administration qui sont quand même assez à l'écoute.
Donc, tu nous répètes, pour tous ceux qui sont à Orléans et toutes celles qui sont à Orléans et qui ont envie de venir sur cette conférence, vas-y.
Ce sera de 18h à 20h demain, donc mercredi 21 septembre, à l'amphithéâtre Maurice Genevoix. Et ce sera un atelier interactif sur le concept de la démocratie au sein de l'Union européenne.
Ouvert à toutes et tous, évidemment. Il y a pas de, c'est pas que des étudiants
non,
de droit.
Non, on ouvre vraiment à tous. Si vous êtes étudiant en histoire, en sciences, que la question vous intéresse, vous pouvez venir. Ouais, vraiment pas de souci.
Nous allons parler maintenant de musiques actuelles.
Abattons rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours tous les mardis de 19h à 20h.
Nous sommes dans la place, dans les deux radios, entre 19h, non, enfin aujourd'hui 19h10 et 20h. Samedi dernier, dans le cadre du festival Hop Hop Hop, le fameux festival, le très beau festival de l'Astrolabe, avait lieu la signature d'une convention de partenariat entre l'État, la région Centre-Val de Loire et des structures culturelles de la région, la FRACAMA notamment, Fédération Régionale des Acteurs Culturels et Associatifs des Musiques Actuelles, et le réseau Scène au Centre, réseau de spectacles vivants en région Centre-Val de Loire. Un partenariat visant à soutenir la filière régionale de musiques actuelles, la création, la diffusion, l'éducation artistique et culturelle sont au cœur de ce partenariat qui tient vraiment à cœur du président de la région, François Bonneau. Il nous l'a dit, écoutez-le. François Bonneau.
C'est la volonté avec des structures comme la FRACAMA, qui est la Fédération Régionale des Musiques Actuelles, qui, sur tout le territoire de la région, dans toutes nos grandes villes, développe à la fois des lieux de création, des lieux de production, des festivals, avec donc cette FRACAMA, avec Scène au Centre, qui est la structure des scènes en région, les grandes, les plus petites, etc., avec l'État et avec le Conseil National de la Musique, la région s'engage. La région qui, vous le savez, fait un très gros effort, fait de la culture vraiment une priorité. La région s'engage pour définir une vision à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans du développement des pratiques musiques actuelles, du développement des événements. On va travailler ensemble plus encore. On a préparé cette convention. On va travailler plus encore avec notamment des appels à projets qui seront adressés à l'ensemble des acteurs du territoire, qui seront poussés, portés, accompagnés par FRACAMA, par Scène au Centre. Appels à projets pour des productions, appels à projets pour l'animation d'événements. Et donc, ça nous paraît très important aujourd'hui, notamment par rapport à tous nos jeunes en région, à tous ceux et toutes celles qui aiment la création contemporaine. Ça nous paraît très important de travailler efficace et donc de travailler ensemble. J'ajouterai que dans cette région Centre-Val-de-Loire, région de la Renaissance, région dans laquelle je veux toujours plus que nous apportions des moyens pour la culture, ça me paraît très important de considérer que si aujourd'hui nous sommes les héritiers de très belles créations musicales, de magnifiques créations architecturales, c'est qu'à un moment, ces créations ont été musiques actuelles, des architectures actuelles, etc. Et donc poursuivre ce mouvement de la création, l'enraciner en regardant l'avenir avec vraiment le désir d'accompagner les créateurs. Et tout ça, c'est aussi beaucoup de bonheur pour les jeunes. On les voit dans les festivals, ici à Hop Hop Hop. C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de partage. Et je crois qu'avoir un peu d'étoiles dans les yeux, dans ce monde compliqué, ça fait du bien pour les jeunes.
La FRACAMA est la fédération, je vous disais, régionale des acteurs culturels et associatifs des musiques actuelles, présente évidemment hein, sur cet événement. Fanny Landerne est la présidente. Elle nous dit en quoi cette signature-là est importante pour tous les acteurs de la FRACAMA.
Le fait qu'on ait fait une signature de contrat de filière, ça nous permet de sécuriser les financements de la région, de la DRAC et de l'État pendant 3 ans. Ce qui veut dire que pendant 3 ans, il y aura des appels à projets tous les ans qui vont sortir pour les acteurs sur le territoire. Donc c'est en ça où c'est important. Et le fait que nous, FRACAMA, on soit signataire, c'est aussi important parce que du coup, on est réellement partie prenante dans le contrat de filière. Donc la FRACAMA a réellement son mot à dire sur les appels à projets. On a aussi notre mot à dire sur les acteurs qui vont candidater. Donc voilà, on va avoir un regard sur tout ça. Même si on n'est que en consultatif sur la consultation en fait sur qui. Voilà, c'est pas nous qui arbitrons et qui disons oui, cet acteur, on lui donne de l'argent ou non. Ça reste entre les mains de la DRAC, le CNM et la région. Mais nous, on a quand même un peu, on peut apporter notre orientation en tous les cas.
Cette signature vient après 4 ans d'expérimentation.
Ouais.
Comment vous avez vécu ça, ces 4 ans à la FRACAMA?
Ça a été très long. C'est très long parce qu'au sein de la FRACAMA, on n'a pas que cette mission en fait, de contrat de filière. On a une équipe qui est exceptionnelle, qui est très mobilisée, mais qui a beaucoup de chantiers. Donc ça nous a pris beaucoup de temps. Il y a eu des moments un petit peu aussi de découragement parce que le fait qu'on soit plusieurs autour de la table, Sano-Centre, la DRAC, le CNM et la région, tous les intérêts ne sont pas forcément convergents. Donc il faut réussir à trouver la convergence de chacun pour mener à bien ça. Donc il y a eu des moments un peu d'épuisement. Jamais de découragement parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est hyper important pour nos acteurs, donc pas de découragement mais des fois un petit peu de fatigue.
Un peu de fatigue, hein. 4 ans c'est quand même un peu long en expérimentation. C'est aussi la question que j'ai posée à Jean-Philippe Thiollet qui est président du Centre National de la Musique. Le Centre National de la Musique est né en janvier 2020 de l'idée de doter la musique d'un opérateur comme il en existe pour le cinéma et le livre qu'on connaissait. Jean-Philippe Thiollet était là, c'est eux qui ont travaillé évidemment avec l'État, la DRAC notamment, et la région Centre sur ce projet de filière des musiques actuelles.
Parfait. Alors, Monsieur Thiollet, Jean-Philippe Thiollet, président ou directeur du Centre ?
Président.
Président, hein, du Centre National de la Musique. Un mot. Qu'est-ce que c'est, ce Centre National de la Musique ?
Le Centre National de la Musique, c'est un établissement public, un opérateur de l'État pour analyser, observer, connaître la filière musicale. Donc il y a une grosse fonction observatoire de la musique. Ensuite soutenir, donc ça veut dire soutenir des entreprises, soutenir des projets. Dans la crise, on a été le pompier. On a eu un demi-milliard d'euros pour aider les entreprises de ce pays. Et puis également, dans le régime de croisière après la crise, ça veut dire soutenir la création dans le spectacle, mais aussi dans la musique enregistrée. Et puis également soutenir le développement international, parce qu'on a des artistes formidables en France qui se produisent à l'étranger, et donc on les aide à gagner des parts de marché, en quelque sorte, dans les festivals et les salles de concert du monde entier.
Qu'est-ce qui fait l'importance de la signature de ce contrat que vous avez signé aujourd'hui avec la région Centre, avec les structures de l'État et des structures culturelles de la région ?
La loi qui a créé le Centre National de la Musique nous demande d'associer les collectivités territoriales à nos compétences, et donc ça prend ça prend la forme d'un contrat qu'on signe avec l'État et avec le conseil régional pour se mettre d'accord sur quelques objectifs. On met un budget, on crée un petit comité qui examine les dossiers et ensuite on attribue l'argent. Donc là, concrètement, c'est 150 000 euros par an. On s'est mis d'accord sur quelques axes, l'aide à l'entrepreneuriat dans la musique pour amorcer des activités de nouvelles entreprises qu'on va pouvoir soutenir pendant 3 ans, parce que l'idée c'est aussi voir grandir ces structures, et puis aider aux actions qui rapprochent les différentes esthétiques. Il y a la musique actuelle, la pop, le hip-hop, le rock, etc. Et puis aussi il y a la musique de répertoire, et donc on soutient ce qui permet de rapprocher les différents genres de musique, parce qu'au fond le public, ce qu'il aime, c'est la bonne musique, et il ne se pose pas trop la question de savoir dans quelle case ça rentre. Et donc ce contrat de filière, on en fera le bilan et j'espère qu'il se développera pour aider les acteurs très concrètement de la musique en région Centre-Val-de-Loire.
Avant la signature de ce jour, il y a eu 4 ans d'expérimentation. C'est un peu long, certains le disent ici, hein. Mais comment le prenez-vous, enfin, vous
Non, le prenez-vous, c'est tout à fait normal que... D'abord, il y a eu un gros volet d'études, de diagnostics. Ça a été présenté avec la Fracama au printemps de Bourges en 2020. Et c'est important, avant de savoir sur quels axes on va travailler, de savoir quelles sont les structures qui existent dans cette région, qui est une région particulière, parce qu'il y a quelques grands festivals, notamment le printemps de Bourges, il y a quelques entreprises bien connues, c'était important de savoir si on aidait plutôt la musique enregistrée ou plutôt live, etc. Bref, il y a eu tout ce travail de préparation, mais qui est gage que le contrat va permettre vraiment de répondre aux besoins. Donc, et puis par ailleurs, cette expérimentation, elle s'est déjà accompagnée d'actions. Il y a eu plusieurs centaines de milliers d'euros qu'on a mis ensemble. Donc, je crois que cet accouchement, je dirais un peu long, mais plutôt un signe de bonne administration.
Parmi nos auditeurs, forcément des étudiants, mais aussi des amateurs. Hein, on parle de musique actuelle, qui est l'essence même de nos radios, mais il y a aussi la grande musique. Vous avez parlé tout à l'heure, hein, vous avez fait un concert de musique ancienne. Alors, ces structures-là sont aussi aidées par votre centre?
Alors, le Centre National de Musique est compétent pour tous les types de musique, dans le live comme dans la musique enregistrée, et puis tous les modèles économiques et partout sur le territoire. Simplement, on est aussi en complément de ce que font les collectivités territoriales ou de ce que fait l'État. Et donc en 2021, on a aidé tous les festivals pendant la crise parce que l'État nous l'a demandé. Le cœur de compétence du CNM, c'est plutôt les musiques actuelles, mais par exemple des projets discographiques, des projets d'export peuvent s'adresser à tous les types de musique, et notamment les musiques baroques, l'opéra, la musique de chambre. Donc bien sûr, le Centre National de la Musique, c'est la maison de toute la musique.
Merci Jean-Philippe. Vous en prie. Merci beaucoup à vous. Jean-Philippe Thiollet, qui était président du Centre National de la Musique. Maintenant, vous avez tout sur ce Centre National de la Musique.
À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Merci Thomas. Viviane nous rejoint.
Merci Radio Campus Tours.
Mais oui, bien sûr, évidemment.
On les adore.
On les embrasse. Bonsoir Viviane.
Bonsoir.
Tu viens nous parler maintenant de ce qui va se passer après cette émission. C'était entre 20h et 20h15. Il y a un événement qui se passe au Bouillon là en ce moment, une inauguration. Et Radio Campus Orléans va diffuser une partie de cet événement.
Alors oui, c'est le lancement de la résidence sur l'art verrier que mène l'Université d'Orléans. Donc à cette occasion, il y a le musicien Charles Zoltan et la plasticienne Estelle Cala et Pierre Gallou de la verrerie d'art d'Amboise qui convient le public à une expérience musicale inédite, immersive. Voilà, les étudiants seront invités à participer. Alors vu que c'est autour du verre et du son, vous vous doutez en fait qu'il va y avoir quelques bris de verre peut-être. Les étudiants vont être invités à briser des objets en verre afin d'en extraire l'âme sonore. Ils participeront à l'élaboration d'une banque de sons. Assez unique en effet, et c'est assez original de partir de l'art, l'artisanat français, la verrerie, pour aller justement créer artistiquement, quoi.
Et ça sera fait en live, tout ça, on va pouvoir l'écouter.
Alors, on pourra l'écouter de chez soi. On peut déjà écouter le live qui est au Bouillon. Il y a une première partie qui s'appelle Contrevers et Basse à pied. Voilà, donc ça, c'est... C'est un groupe voilà, qui propose également un répertoire original qui est lié en fait au jazz, à l'improvisation, et l'invité à découvrir un matériau aux propriétés sonores, musique étonnante, qui est le verre en fait, ouais. Le public dans ce spectacle. Voilà, donc vous pouvez aller voir ça dès maintenant au Bouillon, hein, puisque ça se tiendra, la création Zoltan et Stenkalia, ça se tiendra tout à l'heure, ça se tiendra tout à l'heure à 20h15.
À 20h15, hein, Zoltan, de son nom d'artiste, c'est CTRL-Z. Hein.
Oui, c'est ça. Et alors, c'est une étape de la résidence artistique, hein, puisque c'est amené à durer tout au long de l'année, puisque les trois artistes sont en résidence.
Sont en résidence. C'est au Bouillon, foncez-y, on va aller y faire un tour. Nous sommes en stream, hein, et puis on pourra le réécouter, évidemment. Hein.
Oui, tout à fait. Et puis, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, regarder sur le YouTube de l'université.
Ah oui, il y a déjà
puisque c'est déjà en live.
Il y a déjà des éléments. Parfait, vous allez y faire un tour. Pourquoi pas. En tout cas, merci à vous d'être venu dans cette émission. On reviendra sur la signature de cette filière de musiques actuelles, parce que j'ai aussi posé des questions au directeur de Scène au Centre, qui est lui basé à Chartres. Il se passe de belles choses culturellement à Chartres. On l'écoutera dans une prochaine émission, peut-être même la semaine prochaine. Merci en tout cas à vous d'avoir été à l'antenne avec nous, enfin à l'écoute plutôt avec nous. Restez bien à l'écoute de Radio Campus Orléans, 20h15, un événement sonore lié au verre. On ne vous dit que ça. Restez bien là. Merci à vous. Et Viviane, j'en parlais. Je parlais également de cette émission spéciale jeudi sur Happy Campus Day. Nous avons parlé beaucoup d'université aujourd'hui, donc il y aura un direct.
Oui, à partir de 12h, 12-13h, Écoute ta fac se fera en direct ici dans nos studios.
Dans les studios, malheureusement.
Oui, pour les étudiants qui ne verront pas nos beaux physiques de radio.
C'est ça.
oui, en direct des studios avec une programmation spéciale à Happy Campus Day, des associations, des services de la vie étudiante. Qui sait, ouais. Who knows, peut-être des élus étudiants.
C'est ça. Mais
si élus de l'université.
Vous êtes étudiante ou étudiant, passez, la radio est ouverte. Voilà, venez nous rencontrer. En tout cas, il y aura un petit stand devant la radio si vous voulez en faire ou juste venir nous voir et nous écouter. Merci à toi, Rodrigue. Merci à Victor.
Merci à toi, Hassan. Merci à tous ceux qui nous écoutent.
On rappelle le rendez-vous de Victor, de Rodrigue, demain. C'est à quelle heure?
De 18h à 20h dans l'amphithéâtre Maurice Genevoix en LLSH. Et ce sera un atelier interactif sur le concept de démocratie au sein de l'Union européenne.
À bâton rompu, revient mardi prochain. On va se quitter avec cette merveille qui ressort, hein, qui est rééditée par les fabuleux Analog Africa. C'est un groupe sud-africain qui s'appelle les Movers. Dans les années 60-70, il n'y avait qu'eux qui faisaient de la bonne musique là-bas. Voici Give Five or More. On se check. Give Five or More.
Check.
Ciao. Belle semaine. À mardi.